LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Ça sonne au 5, est-ce que vous y allez ou est-ce que vous êtes dans le tour pour aller voir
En fait, je me questionne comment lever la 1.
Des vivants jusqu'à la mort. Une série documentaire d'Émilie Chaudet réalisée par Cécile Lafont. Deuxième épisode, vivre et mourir en soins palliatifs.
Pardon. Eh ben non, c'était juste le pouce serein qui sonnait.
Si les pompiers sont
on va partir voir Solène.
L'astreinte en arrivant, si vous posez des questions.
Nous sommes ici au sein de l'unité de soins palliatifs du CHU de la Tauvraie à Rennes. Le choix de cet hôpital a été guidé par la lecture d'une tribune que l'équipe du service a fait publier dans le journal Ouest France en octobre 2022. Cette tribune disait en substance que ces soignants allaient être en première ligne si jamais une aide active à mourir était prochainement autorisée par la loi, et que la mettre en place, pour eux, pratiquement, psychologiquement, ce n'était pas si simple. Les craintes exprimées dans cette tribune sont identiques à celles que manifeste régulièrement la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, c'est-à-dire voir s'installer un acte létal dans le champ du soin, et la peur aussi de voir s'installer une forme de systématisation de la demande d'aide à mourir si la loi l'autorise. Ils se demandent quel rôle pourrait avoir le personnel d'une unité de soins palliatifs si les personnes en fin de vie peuvent demander un accès au suicide assisté ou à l'euthanasie.
Quand vous avez terminé, on viendra vous aider pour la toilette.
Nous parcourons donc ce service dans ce contexte de questionnement, d'attente. Ici, il y a une quinzaine de patients, une trentaine de soignants, deux psychologues et un grand espace central aux allures de salle des pas perdus, entre un petit salon, une cuisine ouverte, une télévision constamment allumée, et, derrière une vitre, la salle des transmissions.
Père, oui, père, on reste là. Ah. S'il vous plaît, mesdames.
Pour madame Carr, qui est toujours un petit peu perdue ce matin. Elle se demandait un petit peu encore où était son mari, où est-ce qu'elle était. Et le week-end, ça a été un petit peu comme ça tout le temps. Mais c'est vrai que là, ce matin, directement quand je suis arrivée, elle était « c'est quand que je prends le train, à quelle heure je pars ?» Et il est où mon mari, un petit peu les mêmes propos qu'elle m'avait tenus déjà vendredi. Et est-ce qu'il ne l'aurait pas abandonné ici? Donc bon, on l'a rassuré ce matin et son mari l'avait appelé juste au moment où je partais. Donc je pense que ça a quand même bien rassuré. Madame Lu, qui là est vraiment rentrée dans la phase pré-agonique avec des pauses respiratoires assez importantes. Ouais. Des extrémités qui sont aussi anosées, que ce soit au niveau des mains ou des pieds. Elle a de moins en moins de réactions au niveau des soins de bouche.
Et monsieur Lee, le pansement va être à refaire. J'ai vu qu'il était bien imbibé. Là, il était en train de se raser ce matin. Ce week-end, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait ses enfants qui devaient venir le voir. Et comme il a, à cause de sa masse, là, l'image corporelle, c'est très compliqué. Et il avait bien dit aux filles que pour lui, c'était très dur qu'on le voit dans cet état et qu'il avait l'impression que ça grossissait de plus en plus. Quoi. Et ça grossit, ouais. Et ce matin, il s'est plaint de douleurs au niveau de l'avant-bras à droite. Et a priori, il est en train de rédiger ses mémoires et il voudrait un coup de main.
On va aller dans une chambre 17. Là, j'ai vu qu'il était dans la salle de bain, donc je vais aller le voir, faire son lit, voir si je peux faire le pansement. Et ma collègue va me rejoindre. En 2011, je crois, il a eu, alors c'est un nom assez particulier, en fait, un problème au niveau des glandes salivaires, mais qui n'était pas cancéreux, et qui, en fait, est devenu cancéreux, et qui, en fait, lui prend les glandes salivaires et remonte jusqu'au niveau du crâne, fait que ça pousse vers l'extérieur. C'est pour ça qu'il est venu ici, il était douloureux, sa femme était épuisée et il a parfois des confusions. Donc pour sa femme c'était compliqué.
Ça, comment ça va ce matin?
Oui, ça va. Oui.
Ça va? Est-ce que vous avez des douleurs là?
Non, pas...
Aucune douleur?
Non.
Est-ce que vous voulez que je vous aide pour votre toilette?
Mais c'est fait.
C'est fait, votre toilette est faite. Peut-être vous cherchez un pantalon. Et est-ce qu'ensuite je peux m'occuper de votre pansement?
Mm-hmm.
Ouais. Est-ce que vous avez vu votre petit-fils ou votre petite-fille, je ne sais plus. C'est une petite fille ou un petit-fils?
Un petit garçon, oui.
Un petit garçon. Vous l'avez vu ce week-end, là?
Eh oui.
mon petit-fils, donc, va partir là, d'ici quelques jours en Côte d'Ivoire. Et voilà, quand il aura fait sa tournée, eh bien, il faudra en terminer. Seule la mort, me concernant en tout cas, j'en suis persuadé, sont la réponse. Le médecin ne peut, me dit-il malheureusement, ne rien faire. Et c'est difficile. Mais moi, je veux mourir, je veux en finir.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de dire ça à l'équipe, aux médecins?
Ah oui, oui.
Et qu'est-ce qu'on vous a répondu?
Eh bien, que malheureusement, les équipes françaises ne le permettent pas. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Cette main, ça va? Celle-là, c'est terrible.
Ça va pas, ouais.
C'est que...
Elle fait mal, celle-là.
Voilà, ça commence là.
Ça fait mal jusque-là.
Oui.
On se demande si c'est pas un peu bouché ici. Est-ce qu'on va pouvoir enlever le tricot pour qu'on regarde tout bien?
Oui, bien sûr.
Ça vous dérange pas?
Ben non.
Comment se passe la semaine?
Ah ben j'ai eu la chance d'avoir la visite de mes enfants.
C'est vrai? Et du petit?
Et de ma femme.
Et du petit aussi?
Ben oui, oui, bien sûr, oui, oui.
Bon. Entrez, posez les bras, posez.
Ben non.
On va appeler notre collègue radiologue.
Mm-hmm.
Hein, pour voir avec lui.
Est-ce que vous avez des questions?
Ben non, pas vraiment. Hein, c'est que ça fait souffrir un petit peu,
ben oui.
Parce que je n'avais pas avant. Quoi. Mm.
On va faire des massages du bras aussi et de la main. Bon, ben, on attend l'infirmier pour qu'il puisse regarder.
Mm-hmm. Ok.
C'est un des patients que je connais depuis un an et demi, deux ans à domicile.
Vincent Morel, chef du service.
Donc je l'ai vu plusieurs fois chez lui, et puis un jour il arrive, il ne voulait pas venir, il avait peur de venir. Quelqu'un qui demande souvent à partir, qui fait des demandes d'euthanasie, d'assistance au suicide, mais qui décale à chaque fois, parce que finalement, son petit Joachim, son histoire de vie, fait qu'il trouve ici des choses. Bon, ça fait partie des personnes qui demandent à un moment donné à mourir, parce que c'est insupportable, parce que ça n'a pas de sens, parce que ça n'a pas de projet. Or, l'idée, c'est d'arriver à construire avec lui les projets qui lui conviennent. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit, mais faire en sorte que le temps présent, le temps où il est avec nous, il puisse avoir du projet. C'est ce qui, même quand on traverse des moments difficiles.
Ça veut dire qu'en fait, le produit, il passe pas.
Il passe. Après, dans quelle mesure il passe? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est totalement bouché, si c'est qu'en partie bouché. Encore une chose qui s'ajoute.
Oui, voilà. Hein, franchement, il n'y en a pas assez comme ça. Il faut encore qu'il y ait un truc. Mm.
Mais c'était mieux ce week-end.
Oui,
je suis
c'était
d'accord
très bien
avec
ce week-end.
Vous.
Il était avec les enfants, c'était super. Ils ont fêté ça. Hier, ils avaient apporté la galette des rois, le champagne, enfin. Ça, c'était bien pour lui.
C'est toute la difficulté de ces situations, c'est
ouais.
L'ascenseur émotionnel.
Voilà, et
un
moi
jour,
je.
Ça va, le lendemain.
Je sais bien, et à chaque fois, je ne sais pas comment ça va être. Et là, moi, je suis empêtrée avec tous les problèmes administratifs, de banque. De...
Ouais.
On a fait une donation entre époux, et ça fait trois cabinets de notaires que je contacte. Ils me disent non, c'était pas chez nous, et je ne me souviens absolument pas où c'était. Et là, il me dit, oui, ça doit être à tel endroit dans la maison, et je trouve pas. Voilà le genre de truc qui me casse les pieds beaucoup, aussi. Il y a plein de documents que je trouve plus.
Mm.
Je m'occupais de rien, c'est bien fait pour moi, hein. Mais voilà. Donc, ça, c'est aussi une autre préoccupation.
Mm.
Mais ça va aller.
J'en doute pas, mais... Ça vient rajouter.
Voilà, oui, il y a toujours des petites choses qui se rajoutent. Mm. Mais je vous remercie en tout cas. Ça commence en 2012. Le cancer, c'est un cancer de la glande parotide. Et donc, il a été opéré. Il a eu radiothérapie, chimiothérapie. Et on a été tranquille pendant 5 ans. Donc on se disait, c'est bon. Tout le monde dit, ouais, au bout de 5 ans, vous êtes tranquille. Sauf qu'il y a eu une récidive juste au bout de 5 ans. Et à partir de là, c'est que des chimiothérapies qui se sont enchaînées pendant 3 ou 4 ans. Et puis à un moment donné, on nous dit, c'est fini, il n'y a plus de traitement possible. Il n'y a plus rien à faire pour vous que les soins palliatifs. Et donc, il a voulu rester à la maison, à se faire ses soins tout seul. On a encore fait une super semaine tous les 5. J'avais réservé une maison à Saint-Malo. Donc, ça a été très bien. Et puis, depuis son retour à Rennes, il a commencé à perdre le vocabulaire, à perdre des mots. La dernière chose que j'ai réussi à lui obtenir, c'était le spectacle du 31 décembre à l'Opéra de Rennes. C'était le carnaval baroque. Et il restait une place, juste devant, juste du bon côté pour son oreille, etc. Je lui ai dit, écoute, là, c'est le fauteuil pour toi. C'était à 16h, donc il a été voir ça le 31. Et puis, ça s'est empiré de plus en plus. Hein. Et puis là, on avait contacté l'équipe d'ici. Monsieur Morel, on l'avait contacté il y a peut-être un an ou deux déjà. Et à un moment donné, il me dit, mais votre mari, il ne veut pas être hospitalisé. Je lui ai dit, on va lui demander. Et puis là, il a dit, OK. Donc, moi, je suis soulagée de savoir qu'il est dans un milieu où il y a des professionnels, où s'il a besoin de quelque chose, on le soigne. Vous voyez, là, moi, je le voyais souffrir et je ne pouvais rien faire. Je ne sais pas s'il vous a parlé de son envie de mourir, mais ça, il l'a dit à tout le monde partout depuis déjà un bout de temps. Et quand il est arrivé ici, c'est la première chose qu'il a dite. Et quand on avait visité le centre ici, il m'avait dit, mais de toute façon, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir que je peux faire un spa ou un bain ou je ne sais pas quoi. Moi, je rentre là, puis dans les 3 jours, il faut que ce soit fini, quoi. Et donc, j'arrête pas de lui dire, mais la loi française n'est pas celle-là, c'est pas passé, donc tu peux pas faire comme ça. Je lui ai même dit à un moment, mais écoute, moi je peux rien faire pour t'aider à mourir, personne ne peut rien faire. Je lui ai dit, la seule façon, si vraiment tu veux mourir, c'est de te suicider. Mais je lui ai pas dit comment. Je pensais qu'il allait le trouver tout seul, parce qu'il avait une tonne de médicaments devant lui. Je lui ai dit, si c'était à sa place, moi j'avalerais tous les médicaments d'un coup, quoi. Mais je suis incapable de l'aider à mourir, ça c'est clair. Mais en même temps, dans sa tête, il dit « je veux mourir » et puis finalement, son corps n'est pas prêt, quoi. Et il est jeune, vous voyez. Évidemment que c'est difficile pour nous de se dire « bon, ça va être fini. » Mais après, moi, je sais pas. Je peux pas m'imaginer d'avoir une souffrance tout le temps dans le côté de la tête. La seule fois où j'ai eu une migraine épouvantable, c'était dans les Andes, à 5000 mètres d'altitude, mais j'avais qu'une envie, c'était de mettre ma tête à côté de moi, vous voyez. Donc, je ne sais pas comment il tient depuis si longtemps, quoi. C'est lui qui est en souffrance. Nous, on se prépare au deuil, on se prépare à l'absence. Mais ce n'est pas nous qui pouvons décider pour lui, vous voyez. Donc, je me dis que les soignants, ils devraient aussi... D'ailleurs, il y a une des personnes qui est bien... Dans toutes les personnes qu'on a rencontrées, c'est celle qui était au centre antidouleur, qui nous a dit, si vous voulez mourir, il faut refuser les transfusions, il faut refuser, etc. Vous voyez ? Et bien là, il est en anémie profonde. Hein. C'est pour ça, je trouve que c'est dur. Parce qu'en fait, il veut mourir, donc il fait ce qu'il faut pour. Mais en même temps, ça n'arrive pas comme il voudrait. Donc, c'était très chouette que les enfants viennent. Parce que je dis, moi, t'as encore eu un bon week-end avec un bon échange, quoi. Et sinon, j'essaie de... Il a un petit livre, un petit cahier que sa fille, celle qui a un enfant, lui a offert. Ça s'appelle L'histoire de mon grand-père ou quelque chose comme ça. Donc il a commencé à écrire et puis là, elle regardait avec lui hier. Et puis il y a encore toute une partie. Donc elle a dit, avec maman, vous allez essayer de... C'est moi qui vais l'écrire puisqu'il a du mal à écrire là maintenant. Pour que le petit-fils ait des souvenirs de son grand-père, vous voyez. Donc moi, je suis aussi suivie par des psychologues. Et le dernier truc que je viens de trouver, c'est un atelier de... Ça s'appelle méditation en pleine conscience. Ici et maintenant. Pour essayer de... Parce que moi, ma grosse trouille, c'est de faire une dépression après. Donc... C'est précieux d'avoir des amis, d'avoir des psychologues. Et... puis voilà, essayer de tenir, quoi. Parce que là, pour l'instant, c'est, je n'ai pas le droit de sombrer, vous voyez. Donc je dis, ben ouais, mais plus je tiens, et plus... après, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais rien. J'en sais rien. Le fait d'être toute seule à la maison, bah, c'est différent. C'est autre chose. Donc moi, j'ai cette... je suis en deux, là. Hein. J'ai cette moitié de moi-même qui vit avec ce cancer, cette famille et tout ça. Et puis, en dehors de ça, moi, je suis très, très investie sur le plan social. Je suis au planning familial. Et là, en ce moment, je leur ai dit, bah, là, je suis désolée. Je mets tout entre parenthèses parce que c'est priorité à la fin de vie de Joël, quoi. Mais sinon, voilà, j'ai tout un... Je chante aussi, je fais de la peinture. Ça, c'est sacré. En fait, moi, quand je suis à peindre ou à chanter, il n'y a plus rien d'autre, vous voyez. Là, je suis en pleine conscience, là. Ça marche bien. Et puis, voilà, il faut absolument que je tienne ça, quoi.
Pourquoi vous avez fait appel, par exemple, à ce monsieur accompagnant...
Jalmal. Ça s'appelle Jalmal. C'est jusqu'à la mort, accompagner la vie. C'est laïque, parce qu'on est ni Joël ni moi ne sommes croyants. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les hôpitaux, il y a toujours des cathos partout, quoi. Et moi, je ne supporte pas ça, parce que c'est une espèce de pitié, on ne sait pas d'où ça leur vient, quoi. Au fond de lui, il n'est pas du tout croyant, quoi. Donc, il ne faut pas qu'il se fasse récupérer, vous voyez. Je reviens d'un milieu très, très cathos. Et je dis toujours que j'ai fait mon quota de messe dans l'enfance. Donc, j'ai plus besoin. C'est bon. Moi, je vais au paradis direct. Voilà.
Je suis Valérie des infirmières, on ne se connaissait pas encore. Ben voilà, vous allez voir pendant 4 jours. D'accord ?
Je redouble.
Comment ?
Je redouble.
Il redouble. Ah, vous redoublez.
Qu'il est content de te voir.
Ah,
oh là là,
bah c'est gentil.
Faut tout leur expliquer maintenant.
J'ai laissé mon cerveau à la maison, c'est pas très rassurant en fait. Hein.
Bah moi c'est Dominique, je viens tous les lundis après-midi. L'après-midi dans le service pour accompagner les personnes qui sont là. Je ne connais rien à la médecine. Je suis un ancien postier, pour vous situer, c'est plus facile. Donc moi, je viens faire des rencontres d'accompagnement avec les personnes. J'essaie d'être le plus humble possible, parce que quand je rentre, je frappe doucement, parce que la personne peut aussi se reposer. Et après, c'est au bon vouloir de la personne. Je laisse tout derrière. Je me... libère l'esprit pour être libre à la personne, à la rencontre. On n'arrive jamais là par hasard. Donc, moi, personnellement, bah, j'ai accompagné ma maman pendant des années. Et c'est vrai que la question que je me suis posée après, c'est comment peut-on aimer sa maman, entre autres, et ne pas vouloir la laisser partir. C'est une sorte de déni, pour moi. Alors j'ai voulu certainement comprendre après. Après j'ai accompagné quelques anciens voisins, qui étaient beaucoup plus âgés, qui étaient importants pour moi. Ensuite, j'ai fait une formation, et depuis je continue. Ça fait 16 ans. J'ai été pendant 21 ans pompier volontaire. Comment me poser la question, je disais, avant je voulais sauver des vies, maintenant je les accompagne, et je suis mieux dans l'accompagnement. Donc là, je fais normalement les chambres, et puis après, avec la découverte quoi, de chaque... je peux rester 5 minutes et passer un superbe moment, vous savez, quand une dame, vous vous approchez et vous avez l'impression qu'elle se repose... elle sent juste une petite main posée, un petit toucher. Puis quand vous partez, 2-3 minutes après, elle ouvre les yeux, elle vous regarde et elle vous sourit.
Voilà.
Je pense que c'est encore plus dur quand on n'est pas croyant. Parce qu'il n'y a plus rien après, vous voyez. Les croyants, ils se raccrochent à ça, quoi. J'aurai autre chose après. Voilà, en fait, c'est peut-être pour discuter avec mon mari, l'aider. Bon, il y a déjà le psychologue, mais peut-être que... Je ne sais pas.
Ouvrir d'autres portes.
Voilà, oui.
Donc, je veux l'écouter et savoir ce que lui, votre mari, pense... Et a envie pour qu'on ait en échange tous les deux. Je vois qu'il est très inquiet par rapport aux lois.
Ah, ben ça, mais. Il a collectionné tous les papiers qui sont sortis depuis 2 ou 3 ans. Tout ce qui est sorti, tout, dès qu'il y a un article dans un journal ou quoi. Et puis on voit bien que ça n'avance pas, quoi. Donc, si personne n'essaie de se placer à la place de l'autre, quoi, plutôt qu'à sa propre place, en se disant. Mais c'est sa volonté. Mon mari, lui, c'est vraiment, il est jeune, il est, voilà, et il le réclame.
Ça fait, il le réclame, voilà, c'est ça.
Mais ça fait longtemps qu'il le réclame.
J'ai bien entendu ça tout à l'heure, qu'il réclamait ça.
La première chose qu'il a dit en arrivant à la Tauvraie la semaine dernière, c'était, vous savez, moi, je vais mourir. Hein? Et oui. Donc, il leur dit ça, et puis, Monsieur Morel, il dit, oui, mais là, pour l'instant, on va vous accompagner, mais c'est tout. Mais là, vous voyez, il essaye encore de tenir à cause des enfants. Parce que les enfants partent en Côte d'Ivoire, là, au mois de février. Donc, est-ce que je vais tenir encore un mois? Je pense que dans sa tête, c'est encore ça, quoi.
Est-ce que vous avez votre toilette? Non. Est-ce que vous voulez un petit brin de toilette? Alors, on n'a pas d'eau chaude aujourd'hui, donc vous n'allez pas avoir de douche. Ouais, y a eu un... Ils sont en train d'essayer de réparer. Bon, je vous laisse prendre votre petit déjeuner.
Oui, il est un peu tard pour le prendre.
Oh, il n'y a pas d'heure ici, vous savez.
Oui,
il est 11h. Vous mangerez dans l'après-midi, c'est bon.
Bon, aujourd'hui, c'est la Saint-Vincent.
Ah, c'est la...
Ah oui, alors c'est quoi?
C'est ce que je vous ai dit hier.
Oui, mais je ne m'en rappelle plus.
À la Saint-Vincent, 1 heure est grand.
Ah oui, c'est vrai, je m'avais dit ça.
1 heure est grand, ça veut dire qu'on a gagné 1 heure de luminosité.
On est dans le bon...
On est, ça y est, dans la montée.
Bon, on vous laisse manger parce que sinon le café va refroidir.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Vous allez pouvoir déguster avec votre café.
Donc je suis Valérie, infirmière à l'unité de soins palliatifs de la Tauvraie.
Depuis combien de temps vous exercez en unité de soins palliatifs?
Alors, en unité de soins palliatifs, ça fait 17 ans, dont 7 ans l'équipe mobile de soins palliatifs. Je suis infirmière depuis 92, donc ça fait bientôt 32 ans. Donc j'ai commencé plutôt aux urgences, ensuite un petit peu en intérim où j'ai travaillé en ORL, etc. Après en libéral. Et donc ça a été un processus tout au long de ma carrière. Et un jour j'ai vu un documentaire sur les soins palliatifs et je me suis dit là c'est ma place quoi. Je me suis dit c'est là où je veux travailler. On prend plus le temps. Ça donne plus un sens à notre métier d'infirmière. En fait, les soins palliatifs, les gens confondent souvent. Hein. Soins palliatifs, on vient pour mourir et on n'a plus beaucoup de temps à vivre. Non, les soins palliatifs, ça a plusieurs missions. Et dans ces missions d'accueil de patients, on peut avoir des patients qui viennent effectivement en fin de vie. On a hélas des patients qui, dès la sortie du brancard, décèdent. On a des gens qui restent 1 heure, 2 heures parce qu'ils viennent trop tard chez nous. On a des patients qui restent quelques jours, des fois quelques semaines, des fois quelques mois. Ici, dans le service, on a plein de projets. Ça peut être des petits projets, comme la patiente, vous voyez, aux transmissions, qui allait en permission. On a une patiente qui voulait voir la mère à Saint-Malo. Elle est partie avec 2 soignants. Ils sont allés manger des galettes et ils ont passé la journée à la mer. Donc, c'est des petits projets où emmener son chien aussi. Les gens peuvent amener leurs animaux. C'est la vie qui rentre à l'hôpital, en fait, dans notre service. Nous, c'est ça qui reste important. C'est vraiment que la vie soit là jusqu'au bout. Et ça, on y tient et on le porte. On a des moments difficiles. Ça nous arrive aussi de pleurer, d'être triste. On a quand même un groupe de parole. On en parle beaucoup entre nous. Je dirais pas que c'est un monde à part, mais moi, c'est vrai que quand je rentre chez moi, des fois, je me dis, mais quelle vie professionnelle on peut avoir, parce qu'on voit des choses tellement difficiles. Et quand on part de là, on a l'impression d'être dans un autre monde, en fait.
Facile pour vous.
Ah non, avec les accoudoirs, bon.
Ouais.
Ah oui, pour que je ne tombe pas.
Exactement.
Merci. Donc je suis Candice, je suis ergothérapeute en soins palliatifs. J'interviens auprès des patients essentiellement quand ils ont des limitations dans leurs activités de vie quotidienne. Par exemple, se lever du lit, se déplacer, manger, s'habiller, se laver. En fait, nous, on va trouver des solutions en termes surtout d'aide matérielle. Donc nous, on est un petit peu experts là-dedans. On va savoir prendre les mesures, commander le fauteuil auprès d'un revendeur médical, mettre en place le fauteuil, faire les réglages, réadapter en fait les choses. On n'est pas en soins, donc c'est bon, je pense qu'on peut y aller.
M'assois à côté de vous, madame. Ça va?
Madame est en train d'écrire sur sa tablette. Je ne parle pas, mais j'entends bien et je comprends bien.
Parce que ça vous arrive souvent que les gens croient que parce que vous ne parlez pas, vous ne comprenez pas forcément ce qui se passe.
Il crie. Comme si vous étiez sourde, c'est ça?
Depuis combien de temps, madame, vous avez cette maladie, la maladie de Charcot?
Donc, fin 2019, début 2020.
Je pense que les premiers signes qu'on ne se voyait pas, ça devait être 2019. Donc moi, je la comprenais de plus en plus mal. Puis à un moment, bah, j'en ai parlé quand même, parce qu'il y a un problème.
Je venais vous voir ce matin. Mmh. Par rapport, vous savez, aux lunettes qui pointent, le laser qui peut pointer les pictogrammes. Vous habituez? Vous essayez de temps en temps, du coup, le... Ouais. Parce que j'ai peut-être une deuxième solution qui serait peut-être un peu plus simple que ces lunettes qui pointent et qui vous gênent, qui sont difficiles, en fait, à maintenir. On appelle ça la commande oculaire. On peut faire cet essai, si ça vous intéresse, lundi prochain. Ça vous intéresse? Ouais. Le rendez-vous est pris à 15h30. Donc si vous êtes OK, je le maintiens. Ouais, ça marche.
On communique encore par SMS?
Oui.
Ou Messenger?
Et ça sera, c'est aussi possible avec la commande oculaire.
Ah oui?
Oui.
D'accord.
Et peut-être que des moments où vous êtes un petit peu plus fatigué, ça pourra prendre le relais du tactile. Je vais vous laisser. Merci en tout cas d'avoir pris le temps avec moi. Et puis on se voit lundi prochain à 15h30. Bonne journée.
Merci, vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Dans sa chambre, à votre compagne, il y a une photo de vous deux.
Oui. C'était lors d'une randonnée en montagne. Ça devait être du côté de... dans le Cantal. Ce jour-là, on avait fait une randonnée avec mes petits-enfants. Parce qu'au début, on partait avec la caravane. On part toujours en caravane. Mais souvent, l'été, mes petits-enfants venaient. Une semaine. Et puis, ce jour-là, c'est une photo comme ça. Je vous les ai fait spontanément. Hein. Parce qu'on adorait la montagne. On l'aime toujours, mais bon. Mais elle aimait la marche, mais je lui ai fait découvrir la haute montagne. On a des petites histoires pas mal. Hein. Entre autres, dans les Pyrénées, à la Hilette. C'est un étang qui est à, bon, je crois, 1500 ou 1800 mètres. Ce jour-là, on est rentré, il était
9h30. Du soir?
En fait, elle montait très bien, mais elle n'arrivait pas à descendre. On s'était égaré, ou il n'y avait plus de marquage, enfin bon, peu importe. On a perdu un peu de temps. Mais c'est un souvenir. On se voyait le week-end et les vacances. Donc chacun était indépendant. Et on disait toujours qu'on était en intérim. Voilà, nous on a un intérim, vu l'âge qu'on a, on va pas se prendre la tête. Bon, malheureusement, l'intérim il va s'arrêter, malheureusement, quoi. Mais bon, comme les histoires, toutes les histoires d'amour, hein. Ça se vit toujours en larmes. Donc moi, je m'appelle Daniel, j'accompagne Louisette depuis le début de sa maladie. Mais bon, nous sommes ensemble depuis 7 ans. Nous vivons séparément, et bon, je l'accompagne du mieux que je peux. Elle va avoir 69 ans le 31 janvier. Et moi, j'en ai eu 70 l'an dernier. Et les deux premières années, ça a été. Mais au fil du temps, la maladie, ben, elle a évolué. C'est plutôt doucement. Parce qu'on arrive encore, il y a 2 ans, à faire 15-20 km sur du plat. Et en fait, le palier, c'était au début d'année là, 2023, avec la pose d'une sonde pour se nourrir, parce qu'elle n'arrivait plus à manger. Nous sommes partis en vacances quand même, pour profiter, parce qu'elle savait que c'était sa dernière année, moi aussi d'ailleurs. Donc nous sommes partis mai, juin et août. Et à chaque fois, je mettais en place les infirmières pour venir. On était en caravane, donc les infirmières venaient matin et soir pour brancher la sonde. Bon, je faisais du vélo, on faisait quelques petites marches, mais vraiment très limitées. Et là, comme nous sommes rentrés fin août, ça s'est vraiment amplifié. Et là, comme on habite séparément, j'ai mis en place le réseau d'aides-soignants amplifié. Voilà, bon, depuis 2 mois, ben, elle est là. Et c'est une personne qui ne se plaint jamais. Comme elle dit, ça ne sert à rien de se plaindre. Ça ne fait pas avancer les choses. Donc c'est plus de la présence et de l'accompagnement physique. Parce que même si, de temps en temps, je lui parle d'un peu d'actualité ou de ce qui se passe dans nos vies respectives, on a l'impression que ça n'intéresse plus. De la voir comme on la voit là, c'est triste. Quand je suis arrivé ce matin, j'étais plutôt démoralisé parce que... De toute façon, je crois qu'elle voit ça, la fin arriver, même si c'est dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an, elle sait très bien que c'est sans retour. Le plus dur, c'est quand elle est partie de chez elle. Là, ça m'a fait du mal. Même si je l'accompagnais, quand on sait qu'elle ne va jamais revoir sa maison, je l'ai achetée en 2019, donc on l'avait bien aménagée, tout ça. Chez elle, je lui ai fait plein de petits travaux, quoi. Quand elle est partie, j'ai tout nettoyé, coupé l'électricité, coupé le chauffe-eau, tout coupé, de façon à ce qu'il n'y ait pas de dépenses inutiles. Puis sécurisé. J'ai rentré la voiture dans le garage. Maintenant, j'y vais, je prends le courrier, terminé.
Tout à l'heure, je vous ai trouvé avec elle endormie sur votre épaule. Ouais. Et vous faisiez des mots croisés.
Elle, c'est... Moi, non, mais c'est elle qui les fait. Mais ce qui compte surtout, je crois que c'est la présence. C'est ce qu'elle apprécie le mieux, je crois. Moi, je ne sais pas comment je ferai. Elle m'a demandé comment je ferais. Je lui dis, moi, je coupe le fil.
On a rencontré des patients qui m'ont demandé à mourir.
Vincent Morel.
Qui m'ont demandé l'euthanasie, même l'assistance au suicide plus que l'euthanasie. Et ben, c'est intéressant, à ces moments-là, de dire que je les entends, que je les comprends, que je respecte, que je vais pouvoir répondre à un certain nombre de questions qu'ils ont, à un certain nombre de craintes qu'ils peuvent avoir, mais que je ne pourrais pas, en l'état, pouvoir accéder à leur demande qui serait que je leur donne la mort. Pour autant, les soulager, les accompagner, les écouter, ce qui est extrêmement important, c'est de voir comment on va faire que ce temps et du sens, que ce temps se construise et qu'on enlève l'idée que l'on pourrait absolument tout maîtriser. Donc ce qui était à mon avis essentiel, c'est que dans une société, j'ai l'impression qu'on voudrait tout maîtriser. On accompagne, nous, un tout petit peu de cette incertitude. Il y a une maîtrise de la médecine, une emprise presque de la médecine, sur la vie et sur la mort. Et ce qui est fondamental dans le service... c'est qu'on essaye en permanence de donner du sens à ce que l'on fait et de construire des projets. Beaucoup de patients dans le service ont le projet des visites de l'après-midi, ont le projet des permissions, On le projet d'avoir moins mal. On le projet de plein de choses. Finalement, nous, on avait, on rappelle, un patient comme ça. Chaque jour, ce qu'il portait sa journée, c'était la pâtisserie différente qu'allait lui être apportée. Ça fait 20 ans que je fais des soins palliatifs. Ouais. Le constat que je fais, c'est que quand il y a du projet, il y a du sens. Mais je crois qu'il faut aussi être à l'écoute, me semble-t-il, d'une société qui évolue. Il y a une société qui demande plus d'autonomie, plus de liberté, plus de maîtrise. Est-ce bien ou pas bien? Je ne veux pas répondre à cette question. Par contre, dans cette volonté de plus d'autonomie, de liberté, il y a une demande qui va vers l'aide active à mourir. Bah, comment, moi, je peux analyser cette demande pour à la fois respecter et entendre cette notion d'autonomie, de liberté qui s'exprime, et puis mes repères de soignants? C'est ça notre enjeu.
Je suis pas pour l'euthanasie, je ne suis pas pour le suicide assisté. Mais si ça arrivait, comment on peut faire, comment on peut se débrouiller avec ça, comment, c'est pas contourner, mais comment on peut faire? Nous qui travaillons en soins palliatifs, on voit bien que derrière ça, il y a quelque chose, et dans 99% des cas, il y a la douleur, ou il y a une situation familiale complexe, il y a un problème social, et quand on arrive à débrouiller tout ça, alors il faut un petit peu de temps. Je vous assure que la demande part. Il y a des exceptions. Mais est-ce que d'une exception, on peut en faire une règle? Moi, je pense que non. Par contre, l'exception, on peut la traiter. L'exception, moi, je trouve que d'envoyer les gens en Belgique, pour moi, c'est... On a le droit de demander jusqu'au bout de l'euthanasie. Il y en a très peu. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'une personne demande l'euthanasie, mais qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière cette demande. Et nous, on travaille beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et comment faire avec? On va leur dire que dans la loi, on ne peut pas. Il y en a qui se sont renseignés. Une dame, là, qui est partie jusqu'en Belgique. Et en fait, avant de partir, on l'a accompagnée jusqu'à la... C'était assez fou, quoi. On l'a accompagnée jusqu'à l'ascenseur. Et en fait, le taxi l'attendait, mais elle ne partait pas. Nous, on lui a dit, vous faites comme vous voulez... Si vous changez d'avis, vous pouvez. Donc la question, c'est est-ce qu'elle ne voulait pas partir parce qu'elle perdait une équipe auquel elle avait confiance? Et dans ce cas-là, pour nous, c'était un déchirement aussi de la laisser partir et d'aller se faire euthanasier en Belgique avec une association. Enfin bon, c'est quand même assez particulier. Ou est-ce qu'elle partait parce que... moi, ça a été quand même un déchirement de la voir partir. J'avais l'impression qu'on l'abandonnait, en fait. Moi, je ne sais pas si je serais capable de... Pour moi, ça ne reste pas un soin, ça ne doit pas faire partie de notre prise en soin.
L'idée qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'orientation du projet de loi est plus autour d'une notion d'assistance au suicide, telle qu'on la connaît, qui reste la notion de qui accompagne cette démarche. Est-ce que ça doit être un soignant ou est-ce que ça doit être quelqu'un d'autre, sachant que dans la loi, c'est le malade lui-même qui fait le geste. Donc il s'agit bien de savoir qui accompagne le patient qui réalise le geste. En gros, c'est est-ce qu'il faut à ce moment-là une compétence soignante? Il faut qu'on tranche cette question. Et selon la réponse à cette question, le positionnement des acteurs de soins palliatifs et mon positionnement pourra être différent. Pour l'équipe, on se positionnera sur le projet définitif, c'est-à-dire sur la loi telle qu'elle est. Pourquoi? Parce que tout sera dans la nuance, dans l'expression d'un certain nombre d'articles. Et pour avoir participé beaucoup à l'écriture de la loi Claeys-Donetti, je sais bien la nuance qu'il peut y avoir dans la virgule, dans les mots, dans l'écriture des articles. En particulier sur le fait de savoir est-ce que ça se fait dans les services de soins ou pas dans les services de soins, comment on mobilise un soignant, comment on ne mobilise pas les soignants. Donc c'est extrêmement difficile aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne veux pas aujourd'hui dire comment je me positionnerais, moi ou l'équipe, sur une loi qui n'existe pas. On n'est pas là pour faire trop de projections parce que c'est une boîte à fantasmes. Non, c'est pas moi qui ai ramené ça, c'est Nicolas et...
Ah oui, de leur Tour de France.
De leur Tour de France, ouais.
Impeccable. On va bien s'en charger.
Ça, c'est mieux.
Oh, mais dites pas qu'il y a beaucoup de cannelle là-dedans.
Il y a ce qu'il faut pour
nous. Ouh là 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 là.
Donc ça va être le moment des transmissions.
C'est parti.
C'est parti.
Madame Sick est décédée à 14h cet après-midi, en présence de sa famille. Elle est prête, on a voulu la mettre sur table là ce soir, mais en fait il y a son mari qui est encore dans la chambre. Madame Bion, elle qui est très fatiguée, était pas mal en difficulté là, la semaine dernière sur son endormissement. Je sais pas si elle avait déjà du midazolam.
Si,
quand...
si, elle avait des grosses inductions et elle était complètement
Chaos. Ouais. Mais au moins elle dort bien.
Oui.
En fait, elle a eu la visite de ses petits-enfants samedi, de deux de ses petits-fils, dont un qui est militaire et qui est venu probablement pour la dernière fois. Donc ça a été très dur pour elle, parce qu'elle a peur de ne pas les revoir. Elle dit bien qu'elle a peur de mourir, qu'elle n'est pas prête à mourir, qu'elle aimerait avoir plus de temps. Elle dit qu'elle veut voir le visage de ses petits-enfants, qu'elle veut voir leurs yeux, qu'elle veut passer du temps encore avec eux. Aujourd'hui, elle était très fatiguée. Elle a beaucoup dormi cet après-midi. Et là, ce soir, le coup, on lui a fait un massage avec les bruits des vagues. Et elle était bien, mais en fait, elle pleure. Enfin, c'est proche quand même. Mm. On a évoqué avec elle de partir à la mer, de l'emmener. Et je crois qu'on va plus avoir le choix que de l'emmener parce que là, elle n'a fait que d'en parler. Ah ouais, elle est à fond.
Bah, elle est de l'ancien.
Elle est de l'ancien.
Okay, d'accord.
Toutes les vacances, elle avait ses petits-enfants et ils étaient tout le temps au bord de la mer. Enfin, je pense qu'elle a énormément de souvenirs.
Ok.
Rien que de rester même dans le camion, elle disait, avec la fenêtre ouverte pour sentir l'odeur et juste voir la mer, ça lui suffit. Je pense que par contre, il faut le faire vite. Je pense que c'est un projet qui est vraiment à mettre en place.
On n'a pas.
Non, j'en ai plus. Attends, il faut qu'on commande du 10 000.
Ah, t'as même plus de 10 000 ?
Non.
Et si tu fais dans une petite seringue, qu'après tu...
Non, je peux pas l'adapter sur le GP.
Non, non, je sais, mais tu dilues dans une petite seringue. Ah oui, toi, ça reste dans la grosse seringue de GP,
ouais,
c'est ça
au niveau du piston.
Ah, elle est bien. Et si tu rinces...
On sort des soins pour demain matin pour les collègues et on va commencer à faire notre tour. On va tous les voir en début de nuit, s'assurer qu'ils soient bien installés, qu'ils aient besoin de rien, qu'ils soient confortables. Et après, on passe les voir à peu près toutes les deux heures en fonction de l'état des patients, voir si tout va bien encore, sans les réveiller. On priorise vraiment le sommeil, on respecte le sommeil au maximum. Donc s'ils dorment, on les laisse dormir.
Moi, quand je suis arrivée sur le CHU, on m'a proposé de la nuit. Et donc, j'étais plutôt partante parce que j'avais bien aimé mes stages de nuit. Et en fait, il s'est avéré que je préfère la nuit, pour avoir fait un peu de jour pendant ces deux années et demie, là. Je préfère quand même travailler de nuit ici que de jour. Au niveau du rythme de travail, et même, je trouve que la prise en charge, c'est complètement autre chose. Et la nuit, c'est plus calme, on est plus autonome. Je trouve que la prise en soin, on a plus le temps, en fait, avec les patients, parce qu'il n'y a pas autant de monde autour de nous, entre les familles, les soins de support, etc. Donc, pour le moment, la nuit, ça me convient très bien.
Ouais. Pareil aussi, j'ai commencé de nuit parce que ça ne me déplaisait pas. Mais en même temps, c'est très intense aussi. Quand on a des situations critiques, c'est beaucoup plus intense parce qu'on est beaucoup moins nombreuses. Là, ce soir, on n'est que deux. D'habitude, on est trois. Et donc, quand on a des situations difficiles, c'est vrai qu'on les vit, je pense, plus intensément que la journée où il y a beaucoup plus de monde et beaucoup plus de support.
Ma collègue arrive, elle est en soins encore. Elle est occupée avec une patiente et moi je suis avec une.
arrive dès qu'elle est disponible. Ok? On ne vous a pas oublié, hein? De rien. Et Ludivine arrive tout de suite, dès qu'elle a fini. Bon, elle passera quand même. À plus tard. Oui, mais je vais redresser votre tête parce que sinon ça va passer de travers.
Est-ce qu'on peut s'habituer à la mort ?
Non, je pense pas.
En fait, on se dit qu'on s'y habitue, mais à chaque fois qu'on rencontre des situations compliquées, on se dit qu'on fait un métier de fou et en fait, ça montre qu'on s'y habitue pas. En fait, on fréquente la mort de très près et c'est un peu notre quotidien. Mais non, je pense. Et en fait, si on s'y habituait, il faudrait changer de service parce que je pense qu'on serait complètement en marge de ce qui se passe.
Je pense que pour travailler dans ce service-là, soit on est fait pour l'être ou soit on ne l'est pas. Je compare un peu ça comme à la psychiatrie, c'est tellement spécifique qu'on arrive à travailler dans un service comme ça ou on n'y arrive pas. On voit bien qu'on a des soignants qui viennent. Et c'est très compliqué. Dès le premier jour, ils disent « Ah non, non, mais je peux pas, c'est pas possible. » Et c'est vrai que moi, j'ai jamais eu ce sentiment-là de me dire « C'est trop, j'arrive pas à gérer. Je prends toutes les émotions des patients. » Donc, c'est pour ça que j'ai toujours trouvé ma place. J'ai jamais été submergée par des situations qui sont quand même assez fortes qu'on peut trouver dans ce service-là. J'ai jamais rencontré de grosses difficultés vis-à-vis de ça.
Nous, si on est à Rennes, au CHU de Rennes aujourd'hui, c'est parce que vous avez publié une tribune tous ensemble, disant une aide active à mourir, c'est pas anodin. Il faut s'interroger sur ce que ça veut dire, sur le geste qu'on nous demande de faire, et c'est pas si simple pour nous.
Actuellement, ça arrive qu'on se retrouve face à des patients qui sont en demande d'euthanasie. Aujourd'hui, notre réponse, c'est pas autorisé en France. Et ça s'arrête là, en fait. On peut vous accompagner autrement. Maintenant, si on se retrouve, si c'est légalisé, on va se retrouver face à des patients qui vont nous demander l'euthanasie. Et donc là, ce sera une autre réflexion à mener. Et du coup, c'est important qu'on y réfléchisse bien, qu'une fois que la loi... J'imagine que ça va finir par passer, qu'on connaisse bien la loi pour faire les choses vraiment correctement. Je pense qu'on aura plus de demandes. Après, entre avoir des demandes et avoir des demandes qui aboutissent, je pense qu'il y aura quand même une marge comme en Belgique. Mais là, ces demandes-là, pour l'instant, on les entend. Et la réponse, c'est pas possible. Donc voilà, c'est important que les gens... En fait, je pense que c'est important que les gens se rendent compte que c'est pas anodin parce que derrière l'euthanasie ou derrière l'aide à mourir, il y a des soignants, en fait, qui participent et ça peut bousculer les gens aussi. Je pense que donner la mort, c'est quand même quelque chose de très fort. C'est pas comme si on endormait quelqu'un. C'est l'intention est pas du tout la même. Donc moi, c'est ça que j'aimerais que les gens réalisent un petit peu, parce que il y a plein de gens qui disent mais faut que ça soit légalisé, mais en fait parce qu'ils oublient que derrière ça, il y a des gens qui le font, en fait. Et ce qui m'inquiéterait un peu, c'est que les gens disent j'ai le droit. J'ai le droit à l'euthanasie et je me fiche de ce que vous pouvez faire d'autre. Pour moi, j'ai le droit. Et qu'en fait, nous, nos soins palliatifs soient un peu chintés et qu'on n'ait plus rien à leur proposer en dehors de leur proposer la mort, quoi. Tout est une question d'intention. Quand on met en place une sédation profonde et continue, l'intention, c'est d'endormir le patient. Et là, on est très clair là-dessus. Okay. Et la finalité, en fait, la mort, elle survient, mais... pas directement, c'est pas la conséquence directe de la sédation profonde et continue. La mort, elle survient parce que le patient, il est très malade et ça fait partie du processus, en fait. Là, donner la mort, c'est quand même autre chose. Ça veut dire que je fais une injection et je donne la mort au patient. J'ai pas du tout de soucis à endormir un patient, ça me pose pas de problème. Et quand on en arrive là, je me dis que on a tout essayé
Et voilà, on le fait dormir et la mort survient ensuite. Mais c'est pas une conséquence directe. Et la nuance, elle est quand même importante.
Mais est-ce que c'est donner la mort ou arrêter la vie, en fait, ce geste ?
Que moi, j'estime que c'est donner la mort, mais peut-être qu'en se disant qu'on arrête la vie, c'est moins difficile.
Peut-être que les patients, eux, ils se disent pas « j'ai envie qu'on me donne la mort, mais je veux arrêter de vivre ». C'est pas...
Parce qu'en fait, dans donner la mort, c'est vrai qu'on est dans un... Enfin, l'idée, c'est on tue quelqu'un.
Le mot mort est assez fort.
Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est vrai que je trouve que de dire on arrête la vie, peut-être que le verre est un peu plus plein au final. Parce qu'en fait, on arrête une vie qui est tellement pénible pour eux.
Est-ce que c'est une vie ?
Tout va bien ?
Bonsoir.
J'entends des trucs tomber.
Je tape partout depuis 2 mois. J'en peux plus.
Qu'est-ce qui se passe ?
Je peux...
Ah, c'est la sonnette que vous avez pas, c'est ça ?
Non.
Je vais vous la donner.
Elle est...
Ah bah elle est bien trop haute pour
vous. Elle est trop haute.
Oui, elle est trop haute.
Alors, je tapais avec mon téléphone.
Alors, dites-moi.
Comme j'ai un peu mal au dos,
oui.
J'ai eu un massage qui m'a fait énormément de bien.
D'accord.
J'ai donc dormi jusque...
Et 23h, ouais.
Oui, et puis là, ben, je voudrais bien me tourner.
D'accord.
Pour, voilà, et impossible de mettre la main...
Sur la sonnette, là, si je vous la mets là, est-ce que ça vous va ?
Oui.
Je vous laisse éteindre la lampe de poche, parce que je ne sais pas comment
je sais pas trop comment faire.
Ah, attendez,
c'est mon fils, je suis un petit peu godiche.
Ah, attendez, je crois que j'ai. Gagné.
Merci.
Voilà. Vous voulez vous tourner vers la fenêtre ou vers la porte ?
Non, je voudrais me tourner vers la porte.
D'accord. Et je monte le lit.
Voilà.
Voilà. Et dans la nuit, s'il faut changer la position, on change.
Oui, je sais très bien. Mais là, je paniquais un peu parce que j'arrivais pas à attraper la sonnette. Moi, ça fait 8 jours que je suis là. J'ai fait une hémorragie brutale chez moi. Et depuis, on m'a annoncé qu'il n'y avait plus rien à faire. Que je sais que je suis condamnée. Mais ils savent pas quand. Donc j'attends. Alors là, j'ai plus rien du tout comme traitement. On attend que je m'en aille. Voilà. J'ai 84 ans. J'aurais bien voulu rester encore un petit peu. Voilà.
Bonsoir, madame. On s'est vu la semaine dernière.
Ah, mais c'est le
Est-ce que j'allume un petit peu de lumière ?
Oui, je veux bien. Elle fait partie de tous ceux qui nous aident à traverser. Ce qui a traversé.
Bah, on essaye au mieux.
Oui, c'est gentil. Et j'ai toujours quelqu'un de ma famille qui vient me voir. Parce que mes petits-fils sont complètement anéantis. Et j'ai du mal, moi. Je ne sais pas quoi leur dire. C'est dur, ça. Mm. Et quand on ne sait pas, c'est...
Bah, des fois, il n'y a rien à dire aussi.
Mm. Oui. Et me voilà là en train d'attendre quand est-ce que je vais partir. J'essaie toujours d'être positive un peu, c'est vrai.
Mais c'est remarquable d'ailleurs.
Oui, je crois. Puis alors elles sont...
Oh ! Ah bah c'est gentil.
Il n'y a qu'à appuyer sur un bouton quand on peut l'attraper. Et je crois que pour moi, on a même prévu une sortie. Vous savez, dans un fauteuil roulant. Et peut-être aller faire un petit tour.
Le divine, elle a plus d'infos. Moi, j'ai pas eu toutes les infos.
Moi, j'ai eu les informations.
Ouais. Ah, c'est ça.
C'est elle qui est intéressante.
Et je crois bien qu'il y a quelque chose qui se trame aussi.
Ouais.
C'est ça, hein, le divine.
Ouais, je crois que vous allez aller à la mer cette semaine.
Waouh.
Ouais. Peut-être du côté de Dinard. On organise ça demain.
Bah oui, parce que je suis native de là-bas. Oui, ah, c'est super.
Ouais.
Voilà. Merci à toutes. Vraiment, parce qu'écoutez, il faut le faire dans des conditions pas faciles, c'est dur. On n'imagine pas dans les hôpitaux, mais elles sont toujours disponibles. Solaire, enfin, moi j'aime bien.
Bonne nuit. Bonne nuit.
Merci.
Vous nous appelez s'il y a besoin.
Comment vous faites maintenant, c'est dans 2 heures, vous passez me voir.
Bon, on passe régulièrement.
Ouais, il est quelle heure?
Il est 11h30 là.
Il est 10h20.
Il est 11h20.
11h20, vous venez me voir vers minuit.
Ouais, on passe vers minuit.
Si je dors, c'est pas la peine.
Oui, mais de toute façon, on passe, même si vous dormez, on passe.
Vous allez m'entendre ronfler. Merci beaucoup. Je vais faire dodo là.
Merci à tous les patients qui nous ont accueillis et à leurs proches. Merci au professeur Vincent Morel et à toute l'équipe de l'unité de soins palliatifs du CHU de la Tauvray à Rennes. Prise de son, Pierre Henry. Mixage, Antoine Viossa. Chargé de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination, Johanna Bedeau. Des vivants jusqu'à la mort. Deuxième épisode. Vivre et mourir en soins palliatifs. Un documentaire d'Émilie Chaudet réalisé par Cécile Lafont. Retrouvez les pages web sur franceculture.fr et le podcast LSD sur l'appli Radio France. Thank you.